Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est presque déjà Noël à la SNCF. Ouverture ce matin de la vente des billets pour les fêtes de fin d'année. Quelques couacs, des tarifs qui interrogent. On y reviendra longuement dans la première partie de ce RTL Midi avec Anne Pruvot, directrice de SNCF Connect & Tech. Un an que les riverains se désespéraient, le campement de Forceval où s'étaient rassemblés les consommateurs de crack a été démantelé ce matin dans le nord-est de Paris. Le gouvernement tense les fournisseurs d'énergie alors que les factures s'envolent et menacent nombre d'entreprises. Et puis la guerre en Ukraine met la coopération dans l'espace entre Moscou et Washington. Russes et Américains s'apprêtent à décoller ensemble pour l'ISS.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi, un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part pour Lens où l'on vibre déjà pour le derby du Nord. Ce sera face à Lille dimanche. Une cinquantaine d'actrices, de chanteuses qui face caméra se coupent une mèche de cheveux en soutien aux iraniennes. Les artistes françaises se mobilisent. Pourquoi et quelle portée au-delà du symbole? Julie Gayet, qui fait partie des artistes mobilisés, sera notre invitée à 12h40. Enfin, juste avant 13h LVT midi, nous sommes mercredi. On parlera donc des sorties ciné du jour avec le très attendu novembre qui arrive en salle aujourd'hui. La question du jour sur RTL.fr. SNCF, allez-vous réserver des billets de train pour les vacances de Noël?
D'autant que cette année, c'est le vendredi 23 décembre, donc ça va être un week-end et c'est le week-end de Noël. Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. J'ajoute ce sujet, peut-on rire de tout de nos jours? Elise Moon était l'invité d'Amandine Bécourt ce matin. Il a dit « Je me pose des questions sur certaines blagues et sur l'humour ». Ça fera réagir nos auditeurs.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour
c'est,
à tous.
C'est toujours doux?
Toujours très doux, avec encore beaucoup de soleil, c'est sauf chaud, sur le nord-ouest.
La météo complète à la fin du journal, ce sera chaud. À tout à l'heure, Peggy.
RTL Midi.
Voilà plus d'un an qu'ils avaient été installés là. Un campement temporaire avait alors assuré les autorités. Les consommateurs de crack qui s'étaient installés Square Forceval dans le 19e arrondissement de Paris ont été évacués ce matin. Le campement démantelé. Victor Pourchet, c'est un soulagement pour les riverains que vous avez rencontrés, mais un soulagement prudent.
Oui, parce qu'il voit bien depuis 7h ce matin les trois tractopelles détruire les tentes, le millier de policiers déployés et ses agents nettoyer le square. Mais tout ça a un air de déjà-vu pour Vanessa et Christine.
La dernière fois, il y a 3 semaines, j'en avais pleuré de joie, mais ils étaient là dès le lendemain. Moi, c'est mon quotidien qui est affecté depuis un an. On peut qu'espérer, vu l'enfer qu'on vit.
Je n'y crois pas avant d'en être sûr, c'est-à-dire plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
Les associatifs pas plus rassurés. Françoise fait partie d'un collectif de riverains.
Nous, on est tout à fait mitigés parce que, évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'est pas soulagés d'apprendre qu'enfin cette situation va prendre fin. Et en même temps, terriblement inquiets parce qu'on a l'impression que ça se fait de façon très précipitée. On ne sait pas ce qui va advenir de ces gens et franchement, c'est un petit peu inquiétant.
Alors, sur les 400 personnes qui étaient là ce matin, celles présentes illégalement en France iront en centre de rétention avant expulsion. Des places d'hébergement et une dizaine de lits d'hôpitaux sont prévus pour les autres. Un accompagnement sanitaire indispensable pour le maire du 19e arrondissement, François Dagneau.
Tout le monde a intérêt à ce que des dispositifs durables puissent être mis en place, qui assurent à la fois la tranquillité, la sécurité des riverains et qui engagent les usagers de drogue dans des parcours de soins.
En attendant, des forces de l'ordre resteront sur place aussi longtemps que nécessaire pour éviter une nouvelle installation.
Victor Pourchet dans le 19e arrondissement de Paris pour RTL. 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoire au procès de Mias contre la conductrice du car scolaire qui avait été percuté par un TER sur un passage à niveau. C'était en décembre 2017. 6 adolescents avaient été tués, 17 autres blessés. On revient sur ces réquisitions dans le journal de 12h30.
Au procès de l'attentat de Nice, hommage à la plus jeune des victimes du terroriste ce matin.
Elle s'appelait Léana, elle n'avait que 2 ans et 9 mois le soir du 14 juillet 2015 quand elle a été fauchée par le camion de Mohamed Laouesh Boulel. Sa mère, Margot, est venue témoigner ce matin à la barre Cindy Hubert. Le récit d'une vie brisée.
La petite fille nous regarde sur la photo projetée derrière la cour. De longues tresses blondes et une salopette bleue. Sa mère murmure dans le micro. « Depuis que tu n'es plus là, mon amour, quelle est longue la vie !» Le soir du 14 juillet, Margot, prévenue par un coup de fil, court à perdre haleine sur la prom pour retrouver Léana, alors que son père tente de la réanimer. L'as-tu vu, ce gros camion qui venait sur toi? As-tu eu peur? Aujourd'hui, je n'ai plus ton odeur ni tes petites mains dans les miennes. Il ne me reste plus que des mèches de cheveux dans une enveloppe. Avec ton père, on a essayé de se réparer, mais ça n'a pas marché. Même si maintenant, tu sais, tu as deux petites sœurs et souvent, elles demandent si elles peuvent jouer avec toi. Aux yeux du monde, Léana, tu n'as existé que 2 ans et 9 mois, mais pour moi, tu restes éternelle. Margot lève enfin les yeux du sol pour faire cette promesse devant témoins. Ma fille, je te promets de survivre au mieux à ta mort.
Compte rendu d'audience signé à Cindy Hubert pour RTL.
RTL Midi.
Le gouvernement hausse le ton face aux fournisseurs d'énergie.
EDF, Engie, Total Energy, tous les acteurs du secteur étaient convoqués à Bercy ce matin en pleine flambée des prix. Et alors que de nombreuses entreprises craignent de couler tout simplement à cause des factures énergétiques qui s'envolent, l'exécutif Anaïs Bouissou intime aux fournisseurs de faire des efforts et ça... très vite.
Oui, les fournisseurs vont devoir être beaucoup plus clairs, beaucoup plus transparents et éviter de faire s'envoler les factures par plaisir. Ils devront prévenir tout d'abord les entreprises et les mairies, les collectivités 2 mois avant la fin de leur contrat d'éventuels changements de prix. Deuxième chose, proposer à tous les clients qu'ils demandent au moins une offre pour ne pas laisser les entreprises sans solution cet hiver. 3. Aider les chefs d'entreprise en difficulté à étaler leurs paiements. En parallèle, le prix moyen de l'électricité va être publié par la Commission de régulation de l'énergie. Exemple, si c'est 100 euros du mégawattheure, vous saurez qu'une facture à 500 euros est largement abusive. Cela permettra plus facilement de faire jouer la concurrence, voire de dénoncer les profiteurs. Enfin, si les producteurs d'électricité décident de vendre malgré tout leur énergie plus chère que 180 euros le mégawattheure, ils devront reverser l'argent en surplus à l'État, une rente pour éviter les surprofits estimés entre 5 et 7 milliards d'euros par le ministre Bruno Le Maire.
Éclairage signé Anaïs Bouissou pour RTL, merci. Et dans le même temps, la Commission de régulation de l'énergie fait savoir que les réserves françaises de gaz sont pleines, les cuves bien remplies, donc pour affronter l'hiver.
Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, c'est officiel. En revanche, Vladimir Poutine a signé ce matin la loi d'annexion des 4 régions ukrainiennes occupées.
Et ça, alors que les frontières même de ces nouvelles régions ne cessent de bouger, l'armée russe reculant face à la contre-offensive ukrainienne, Volodymyr Zelensky se félicite de ses victoires. Il a remercié hier soir Joe Biden pour le soutien continu des États-Unis. Et alors donc que Washington et Moscou se livrent une guerre à distance, les voilà qui s'apprêtent à partir ensemble dans l'espace, Sophie Jousselin.
Oui, puisque la Russe Anna Kikina va s'envoler à 18h depuis la Floride vers la Station Spatiale Internationale. Elle sera aux côtés de 2 Américains et d'un Japonais. Depuis la reprise des vols habités outre-Atlantique en 2020, Kikina est la première cosmonaute à décoller dans un vaisseau américain, un Crew Dragon de l'entreprise d'Elon Musk. Donc un petit signe de réchauffement entre Washington et Moscou, alors qu'au tout début du conflit, l'ancien patron de l'agence spatiale russe, le tonitruant Dmitri Rogozin, avait menacé de désorbiter l'ISS, de la précipiter sur Terre, en ajoutant que la Russie allait construire sa propre station dans l'espace. Mais en juillet dernier, Rogozin a été remercié par Vladimir Poutine et depuis, les relations sont un peu plus sereines. Un accord a même été signé entre les 2 agences spatiales pour des vols croisés, c'est-à-dire des Américains qui partent de Baïkonour au Kazakhstan dans un Soyouz, le premier c'était fin septembre, et des Russes qui décollent des États-Unis. La première, c'est donc Anna Kikina. La dernière fois qu'un cosmonaute s'est envolé depuis la Floride vers l'ISS, c'était il y a une 20aine d'années du temps de la navette spatiale américaine.
Sophie Jousselin pour RTL. Le sport, et après la victoire de l'OM qui s'est enfin lancée en Ligue des Champions hier soir en s'imposant 4-1 face au Sporting Portugal, c'est le PSG qui retrouve l'Europe ce soir, là aussi, face à un club de foot portugais. Les Parisiens se déplacent sur le terrain du Benfica Lisbonne. Match à suivre en direct sur RTL à partir de 19h45. La météo, on vous retrouve Peggy Broche, comme promis. C'est doux, c'est même chaud, disait Pascal.
Oui, c'est même chaud dans le sud-ouest en fait, jusqu'à 29 degrés cet après-midi à Tarbes, 28 à Montauban ainsi qu'à Clermont-Ferrand, 27 à Bordeaux, 25 à Strasbourg, 23 à Marseille et Perpignan, 22 degrés à Paris et Alençon, 20 à Lille et 17 à Brest, on est souvent au-dessus des normales. Côté ciel, encore beaucoup de soleil sauf sur un quart nord-ouest où là les nuages sont nombreux avec des pluies marquées qui vont arriver cet après-midi entre la Bretagne et la Normandie. Elles vont se décaler vers l'Est et gagner l'île de France et les régions proches de la Belgique en soirée. Sur le reste du pays, c'est un beau soleil, alors sauf sur le Languedoc-Roussillon, où les nuages sont assez nombreux.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
Un jour chez vous, effectivement, chaque jour l'info au plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, direction Lens ce midi où l'on prépare déjà le derby du Nord face à Lille dimanche.
Un ch'ti derby,
mais ouais. Qui rassemble beaucoup, beaucoup de supporters. Ils étaient déjà des milliers de sang et or réunis à Bollard ce matin pour assister à l'entraînement, Franck.
Oui, bonsoir, bonjour Céline. Oui, l'entraînement qui se termine tout juste ici. On a vu l'équipe des
Mais derrière vous, qu'est-ce que j'entends ? C'est des supporters derrière
vous ? Ah oui, c'est des supporters. On a presque l'impression d'être un jour de match, en effet. Bah, on est dans le stade.
Il y a combien de personnes ?
Des milliers.
Près de 4000 supporters hein, ce matin. Ils étaient là dans la tribune Marek avec les maillots, les écharpes sang et or. Bon, on est mercredi, hein. Il y en a qui viennent comme ça assister à l'entraînement de leur équipe. C'est sacré ici à Lens, hein, le derby du Nord, comme chez le voisin lillois. On a vu une banderole déployée pour faire 4 sur 4, casser leur les pattes. Le Racing a déjà gagné ses 3 dernières rencontres hein, face au LOSC et entend bien poursuivre sur cette dynamique. Beaucoup de public familial. Il y avait des enfants ici. On est mercredi hein, et toujours une ferveur, une communion, un partage avec cette équipe. Et en tribune, Vincent, l'un des abonnés artésiens, savoure.
C'est important d'être là pour leur montrer qu'on est fiers depuis le début de saison, même depuis 3 saisons. C'est le derby, c'est particulier. L'année dernière, on en a mis 3. Cette année, on espère qu'on va refaire le même tarif. Après des années de galère en Ligue 2, là, on vit un rêve. Il n'y a qu'à Lens. On est unique. Avec Marseille, Saint-Etienne et Strasbourg, il n'y a pas d'autre meilleur club au niveau supporter en France.
Et à noter qu'à Lille, hein, l'entraînement sera aussi ouvert au public samedi, mais au siège du club, au domaine de Luchin, donc avec forcément moins de monde.
C'est impressionnant en tout cas d'entendre tous ces supporters un mercredi matin, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Ce derby du Nord, c'est le symbole d'une rivalité historique entre deux villes, l'une riche et l'autre peut-être moins.
Exactement, hein, une rivalité qui remonte à l'après-guerre. Hein, cela dépasse presque l'enjeu sportif pour certains. Lille, Lens, deux villes socialement différentes. Vous l'avez dit, la métropole des bourgeois contre les ouvriers, la cité des mines. Bon, l'image évolue, hein, mais les clichés ont la vie dure. Pour ces supporters du Pas-de-Calais, c'est presque une revanche hein, sur le terrain sportif. Nous explique notamment François, il est boulanger dans le secteur.
Depuis qu'on est petit, en fait, c'est la rivalité, c'est ça.
On s'aime pas entre Lille et Lens, vraiment ?
Non, on s'aime pas, non, de toute manière. Pourquoi les aimer ?
Les bourgeois ouais, d'un côté, les ouvriers.
Ça, et les ouvriers de l'autre aussi, ils se prennent pour des. Nous, c'est le bassin minier, c'est le monde ouvrier, ils nous voient comme des chômeurs, comme la rivalité historique, quoi, je veux dire. Donc, on peut pas parler de revanche, c'est du sport, donc il faut pas non plus partir dans des extrêmes quand même. On a le soleil dans nos cœurs, nous, donc c'est le plus important.
Et bien sûr, dans les deux équipes, les joueurs savent que c'est le match à ne pas perdre. Sur le plan sportif, Lille a l'avantage sur 116 derbies, 44 victoires contre 36 pour les sang et or, mais la pression sera du côté des Dogs.
Franck, ces matchs sont souvent émaillés d'incidents, c'était le cas encore la saison dernière. Des mesures de sécurité particulières sont prévues dimanche ?
Oui, on avait vu voler des fauteuils, notamment dans les tribunes. Alors après ces incidents et certaines bagarres, le préfet devrait encore déployer un plan de sécurité particulier. Seulement 1 millier de Lensois sont autorisés à se déplacer au stade Pierre-Mauroy dimanche. Ils seront parqués à un endroit, entourés et escortés par les forces de l'ordre. Mais certains seront forcément disséminés hein, malgré tout dans les tribunes. Alors Lucie et Karine, deux jeunes fans d'Arras, espèrent malgré tout que tout se passera sans problème.
Il faut montrer qui on est, il faut supporter jusqu'au bout et puis les motiver.
Ah, les valeurs lensoises quand
oui,
même.
Oui, bien sûr. Après, il y a toujours des craintes. On espère quand même que ça va bien se passer quand même relativement des deux côtés.
On se dit qu'en parkage, ce sera quand même sécurisé. Donc, moi, j'ai pas de crainte particulière par rapport à dimanche, non. C'est sûr, c'est pas un match comme les autres, non.
Pas un match comme les autres, non, mais peut-être que l'air des corons va encore résonner dimanche à Lille. En tout cas, c'est un match de football, un peu plus quand même ici, au pied des terris et sur les pavés du Nord.
Merci beaucoup Franck Hanson à Lens, donc pour RTL.
Formidable atmosphère, formidable ambiance, et c'est à Lille hein, le match. Et Lille-Lens, c'est dimanche à 20h45, on pourra le suivre bien sûr sur RTL. On marque une pause et dans un instant, les billets de train sont en vente pour Noël. Et déjà, les prix font tiquer bon nombre d'usagers. On en parle dans un instant avec notre invitée Anne Pruvot, qui est la directrice de SNCF Connect Ntech. A tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Et voilà, vous les avez reconnus, c'est notre très caractéristique, celle de la SNCF, car oui, l'heure des départs pour les fêtes de fin d'année a déjà sonné depuis 6h ce matin. Les billets sont en vente, c'est déjà la ruée pour en parler avec nous. Anne Pruvot, directrice de SNCF Connect Ntech. Bon, en clair, vous êtes responsable du site, de l'appli, enfin des réservations. Bonjour.
Bonjour.
Avant de parler de ce qui s'est passé ce matin, une première question évidemment sur les prix, puisque l'on a appris qu'ils pourraient augmenter courant octobre. À quoi il faut s'attendre ?
Alors, je ne peux pas vous en parler, puisque, comme vous l'avez dit, moi je m'occupe d'un site de distribution et d'une application de distribution. Ce qui est sûr, et pour rebondir sur ce que vous disiez, à 6h du matin, on a ouvert des billets pour la période 11 décembre, 2 janvier, c'est-à-dire la période des circulations de Noël, les vacances de Noël, que manifestement les Français attendaient avec impatience, que plus vous vous y prenez tôt, ce que je peux vous dire, un certain nombre de clients ont fait ce matin, plus vous y prenez tôt, plus vous avez une meilleure chance d'avoir les meilleurs tarifs, comme toujours. Et si vous avez ou si vous vous dotez d'une carte avantage, en fait, ça vous permet, là aussi, d'accéder à des réductions et surtout d'avoir des prix plafonnés indépendamment de la disponibilité de ces réductions.
Vous nous l'avez dit, il y avait de la demande ce matin.
Tout à fait.
Peut-être même trop. Le site, l'application ont planté, tout est rétabli, il n'y aura plus de problème ?
Alors, ils n'ont pas planté, il n'y a eu aucune interruption de service ce matin. En fait, on s'attendait à un afflux de clients qui a été encore supérieur à ce qu'on attendait.
C'est-à-dire ?
Et pour garantir, je vais y venir dans un instant, pour garantir la fluidité en fait, du parcours et de l'expérience de nos clients, ben dans ces cas-là, on met des sas d'attente pour s'assurer que ceux qui sont déjà chez nous vont poursuivre leur achat tranquillement. Mmh. Et pour répondre à votre question de combien de plus finalement que d'habitude, on a fait x10 en fait par rapport à l'année dernière pour la même ouverture des ventes. On a fait x10 en audience. Pour vous donner une idée, quand j'ai quitté le bureau et comme nos bureaux ne sont pas très très loin, c'était il n'y a pas très très longtemps, on avait à peu près en permanence toutes les minutes connecté sur le site ou l'application entre 250 000 et 300 000 personnes, c'est-à-dire à peu près la taille de la ville de Nantes.
Mais ça, c'est l'audience, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de réservations ? Parce que ce n'est pas tout d'aller sur votre site, il faut aller au bout de
l'exercice. Il faut aller au bout de l'exercice, vous avez tout à fait raison. Et depuis ce matin, 6h du matin, on est en moyenne à 30 billets vendus seconde. Ça ne vous dit absolument rien, mais si je vous dis que toutes les minutes,
ça fait 60.
Ça fait 60 fois plus.
3 TGV.
Combien de gens vont voyager le vendredi 23 décembre et le samedi 24 décembre ? Est-ce qu'on le sait ?
Je suis encore incapable de vous le dire.
Mais à peu près.
Non, je...
Bon. En revanche, pendant que vous parliez, je suis allé sur votre application. D'abord, je vous félicite, j'ai mis 2 mois à la comprendre, mais maintenant, je la maîtrise bien. Et donc, j'ai tapé, j'aime bien la boule, donc j'ai tapé Paris-La Boule. Et à ma grande surprise, il y a un train, par exemple, qui est disponible à 12h52. D'ailleurs, tous sont disponibles et c'est pas très cher. Je pensais que je paierais plus cher 59 euros en seconde classe, 59 euros pour Paris-La Boule, donc ce vendredi 23 décembre, alors que souvent, je trouve que le train, c'est hors de prix.
Mais
alors, j'ai un indice. En fait, je sais que maintenant, vous avez une carte avantage.
Oui.
59 euros, c'est exactement le prix plafonné quand vous avez acquis ou vous acquérez une carte avantage. Vous avez des prix plafonnés, donc si vous voyagez sur une durée de moins de 1h30, vous êtes à 39 euros max en seconde.
Mmh.
Entre 1h30 et 3h, 59 euros. Et la boule, vous êtes exactement sous la barre des 3h.
C'est raisonnable.
Et plus de 3h, c'est 79 euros.
Alors, on va revenir sur tous ces tarifs parce qu'Arnaud Touche, notre expert voyage ici, a regardé pas mal le trajet. Et vous verrez que pour une famille, c'est pas toujours si accessible que ça. On marque une pause, Anne Prévost, vous restez avec nous. On revient sur les tarifs de la SNCF dans un instant.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Et nous sommes toujours avec Anne Prévost, directrice de SNCF Connect & Tech, responsable donc du site de l'application qui vous permet de réserver les billets de train. On rappelle qu'ils sont en vente depuis ce matin à 6h pour les fêtes de fin d'année. Avec nous en studio également Arnaud Touche qui connaît les lignes SNCF par cœur. Arnaud, vous avez joué depuis ce matin 6h aux vacanciers qui planifient son séjour. On l'a dit, ce qui marque quand même, ce sont les tarifs. Vous avez pris l'exemple d'une famille de 4 personnes qui souhaitent voyager pour les fêtes. C'est souvent une facture à 3 chiffres.
Oui, effectivement, j'ai pris l'exemple d'une famille avec les parents qui ont une carte avantage cette fois. Alors la carte avantage, on le rappelle, c'est 49 euros avec la promesse des prix bloqués, on en parlait tout à l'heure. Alors pour 4 personnes avec 2 ados de 12 et 13 ans, pour un Paris-Nice par exemple, avec un départ le vendredi 23 décembre, ce qui est effectivement, vous l'avez dit Pascal, la plupart des gens vont partir ce soir-là, et un retour une semaine après, eh bien la facture elle est quand même de 548 euros avec la carte.
Aller-retour.
Aller-retour, oui. 800 660 sans carte. Donc il y a quand même un delta.
C'est très très cher.
Et ensuite, il y a par exemple un Paris-Marseille, c'est 632 euros avec carte, 928 euros sans carte pour le coup.
Et en voiture, évidemment, ça coûterait moins cher.
Alors, j'ai jamais fait le calcul de la comparaison du coût de détention de la voiture, mais je vous invite à le faire. Coût de détention de la voiture, assurance, essence, péage, sur les tarifs que vous venez.
Sans parler de la voiture, il y a l'avion.
Oui, alors évidemment, j'ai comparé avec l'avion. Là, aux horaires similaires, bien sûr, et avec des bagages inclus, hein, je suis allé au bout de la démarche, en soute, en prenant EasyJet, par exemple, sur un Paris-Nice, je vais payer 710 euros, c'est donc 150 euros de moins par rapport au train, sans carte de réduction, là encore une fois. Sur le Paris-Marseille, c'est 820 euros en avion, avec Air France, c'est 188 euros de plus qu'avec le train, quand on a la carte. Par contre, c'est 108 euros de moins sans carte, pour le coup.
Non, mais a priori, le moins cher, ça reste la voiture. Alors évidemment, si on prend le coût de la voiture, etc., mais sur un voyage direct, l'essence et les péages ne coûtent pas 860 euros pour 4 personnes.
Mais si vous raisonnez qu'en coût marginal, on ne s'en sort pas. Non, par contre, ce que je trouve intéressant dans ce que vous venez d'indiquer dans les tarifs, c'est que vous voyez très bien que dès le premier achat pour cette famille, vous remboursez votre carte avantage. Et même en remboursant la carte avantage, vous restez beaucoup plus avantageux que l'avion sur de l'ultra longue distance comme vous venez de prendre sur le territoire français.
Mais les budgets que donne Arnaud sont quand même considérables si on pense à une famille de 4 personnes avec par exemple 2 adultes au SMIC. Ça veut dire quoi? Que c'est un coût incompressible de voyager, qu'on ne peut pas avoir des tarifs de train qui soient moins chers pour des périodes comme ça de forte influence où tout le monde a envie de se retrouver en famille?
Alors, je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas moi qui fixe les tarifs.
Non, bien sûr,
et nous, notre rôle côté SNCF Connect, c'est de nous assurer que les clients vont trouver les meilleures solutions, à la fois en termes d'horaires, en termes de tarifs, adaptés à leurs besoins de mobilité. Je reprends toujours cet exemple que vous venez de citer, de les inciter quand, et je ne sais pas si vous avez fait le test, Arnaud, quand vous avez fait votre test sur notre site, quand vous avez cherché en plein tarif, on a dû vous suggérer d'acheter la carte avantage,
oui, tout à fait.
En disant elle va être remboursée dès ce premier voyage. Et en fait, c'est ça notre rôle côté SNCF Connect, c'est de guider les clients, de les accompagner pour trouver toujours la meilleure solution adaptée à leur situation.
Et aujourd'hui, il y a plus de 4 millions de personnes qui ont quand même une carte avantage aujourd'hui, selon la SNCF. C'est plutôt un succès là-dessus.
Ces billets-là, ils sont échangeables jusqu'au dernier moment, remboursables, échangeables, parce que c'est important aussi. Parfois, on peut changer.
3 jours avant le départ du train.
D'accord.
Et il y aura des places pour tout le monde ?
Et il y aura des places pour tous. Enfin, on est sur un modèle de réservation obligatoire sur le TGV en particulier. C'est la règle du premier arrivé, premier servi, de l'importance de la journée d'aujourd'hui.
Mais il en reste manifestement là.
Il en reste encore, oui.
Hein, il en reste. Là, on peut considérer que vous avez vendu combien? 10, 20% des possibilités sur le 23 décembre et le 24 décembre?
Non, alors on n'a pas encore fait nos chiffres journée par journée de circulation. Oui, il reste, et vous avez fait le test en direct, je crois que Arnaud l'a fait juste avant aussi, il reste de grands nombres de choix sur l'ensemble des grandes destinations, et encore au jour très demandé.
Bah écoutez, merci, et puis vous pouvez aller sur l'appli qui est très pratique, hein, disons-le, et c'est vrai qu'il n'y a plus de guichet d'ailleurs, puisque plus personne n'achète des billets au guichet. D'ailleurs, il faut penser aux gens qui nous écoutent et qui ont un certain âge, et qui ne sont pas familiarisés à Internet, eux, ils ne peuvent plus acheter quasiment de billets au guichet.
Alors, la digitalisation est devenue très très forte parmi les Français, y compris à travers l'ensemble des générations. Et si on prend l'exemple de ce matin, à 6h du matin, quand tout le monde s'est dit « je vais réserver mes billets pour Noël », c'était quand même beaucoup plus confortable de le faire en pyjama devant son bol de café.
Oui, j'entends, mais il y a des gens qui sont démunis devant le numérique, et je pensais simplement à eux. En tout cas, merci beaucoup. Et la grande information revient à 12h30 avec Céline. À tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi. RTL, s'informer ensemble.
Il est 12h31. Bonjour à tous.
RTL Midi. Le 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro.
C'est donc l'heure de la grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Le drame de Mias n'était pas une fatalité. C'est la conclusion du procureur. 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoire, ont été requis contre la conductrice du car scolaire. Une jeune femme de 18 ans tuée par les forces de l'ordre la nuit dernière à Grenoble à l'issue d'une course-poursuite. De plus en plus de pénuries de carburant en station quand le pétrolier Total est victime de son succès, vous l'entendrez. Une 50aine d'actrices, de chanteuses qui se coupent une mèche de cheveux pour soutenir les iraniennes. Les Françaises se mobilisent. Pourquoi? Quelle portée au-delà du symbole? On sera avec Julie Gayet qui fait partie de ces artistes mobilisés à 12h40, juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture. En ce mercredi, on parlera des sorties cinéma du jour avec le très attendu novembre notamment. La question du jour sur RTL.fr, alors que la vente des billets de train pour Noël s'est ouverte ce matin, allez-vous réserver des billets pour les vacances? On vous pose la question sur notre site RTL.fr.
Tous ces sujets, bien sûr, vous pourrez en parler à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole, 32-10 pour dialoguer jusqu'à 14h30. Vous pourrez évoquer également la naissance du Front National avec à sa tête Jean-Marie Le Pen. C'était il y a 50 ans, jour pour jour.
La météo à la fin du journal avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice, c'est agréable.
Doux, oui, c'est très agréable, doux et ensoleillé, sauf sur le nord-ouest. Céline.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis probatoire requis ce matin contre la conductrice du car scolaire de Mias. C'était en 2017, la collision entre son car et un TER sur le passage à niveau avait fait 6 morts, 17 blessés parmi les adolescents. Et le procureur Étienne Baudu a écarté ce matin toute fatalité. Pour lui, il y a bien une responsable dans ce drame.
Oui, et c'est bien la conductrice du car, Nadine Oliveira. Elle n'est toujours pas là aujourd'hui. Elle est dans une clinique psychiatrique, a précisé le procureur en préambule. Michel Sastre est ensuite revenu sur les témoignages nombreux et accablants et les expertises implacables. Oui, Nadine Oliveira n'a pas vu les signaux lumineux. Oui, elle n'a pas entendu le klaxon d'urgence du train. Et oui, elle a franchi le passage à niveau après avoir fait plier et briser la barrière baissée. Elle n'a pas eu la vigilance élémentaire fondamentale de tout conducteur professionnel, a-t-il poursuivi. Ce franchissement du passage à niveau fermé est le résultat de la routine, une routine mortelle. Alors, du côté des familles des victimes, certaines estiment que 5 ans d'emprisonnement, dont 4 avec sursis, c'est trop peu. Pour d'autres, c'est son absence au procès qui est le plus dur à vivre. Stéphane est le papa d'Ophélia, tué dans l'accident.
Qu'elle s'excuse et qu'elle vienne dire à chaque parent, voilà, excusez-moi, oui, j'ai peut-être créé cet accident, c'est de ma faute, mais elle le dira jamais, donc oui, c'est juste symbolique.
Et en revanche, tous se sont satisfaits des peines complémentaires, en particulier Nadine Oliveira ne pourra plus conduire de car scolaire.
Étienne Baudu à Marseille. Pour RTL.
Une course-poursuite et un mort cette nuit à Grenoble.
Une jeune femme de 18 ans, oui, tuée par la police alors qu'elle était passagère d'une voiture qui cherchait à échapper aux forces de l'ordre et qui avait ouvert le feu sur les policiers quelques minutes plus tôt, Serge Pueyot.
Oui, vers 2h30, les policiers en patrouille repèrent une voiture arrêtée en pleine voie. Ils décident de contrôler le conducteur. Celui-ci part alors sur les chapeaux de roue. Une course-poursuite s'engage. Le conducteur va tirer à 3 reprises en direction des policiers qui ne réplique pas dans un premier temps. Le fuyard va alors se retrouver coincé dans une impasse près de la gare. Yannick Biancheri du syndicat de police Alliance.
C'est à ce moment-là que mes collègues ont dit c'est bon, il peut s'arrêter, on va pouvoir l'interpeller. Donc ils ont mis pied à terre et cet individu a reculé, a fait un demi-tour et a foncé délibérément sur mes collègues pour les percuter, pour se soustraire au contrôle et à l'arrestation. Donc à ce moment-là, mes collègues n'ont pas eu d'autre choix qu'utiliser leur arme. Donc ils ont fait feu sur en direction de ce véhicule. Celui-ci a quand même réussi à partir, de percuter un autre véhicule de police un peu plus loin pour échapper encore à son arrestation. C'est au moment de l'interpellation du chauffeur, qui a été compliqué, qu'ils sont aperçus qu'il y avait une passagère et qu'il y avait un impact de balle.
La passagère de 18 ans a été touchée mortellement au cou. Le conducteur a lui été légèrement blessé. Il était déjà connu des services de police. Les 3 policiers concernés par les événements de cette nuit ont été placés en garde à vue.
Serge Pueyot à Grenoble pour RTL. À Paris, les forces de l'ordre ont démantelé ce matin le campement de Forceval dans le 19e arrondissement de la capitale, campement où se rassemblaient depuis un peu plus d'un an les consommateurs de crack. 1 millier de policiers mobilisés. Les étrangers en situation irrégulière seront placés en centre de rétention administrative en vue de leur expulsion. Les autres occupants orientés vers des hébergements avec accompagnement médico-social, selon les autorités.
RTL Midi.
Des files d'attente et à l'arrivée des stations parfois à sec, les pénuries de carburant se multiplient.
C'est particulièrement vrai dans le réseau Total pétrolier qui, je vous le rappelle, offre une ristourne de 20 centimes sur chaque litre de carburant vendu. Forcément, les automobilistes se précipitent. Samuel Goldschmidt, vous l'avez constaté près de Toul, en Meurthe-et-Moselle. Il faut savoir être patient.
Et pour cause, hein, lorsque nous sommes passés à la station Total, 4 des 5 pistolets étaient recouverts de leur capuchon de plastique rouge, à sec, aux 4 pompes. Beaucoup d'automobilistes cherchent donc refuge au prochain supermarché, comme Teddy.
Sinon, c'est les grandes surfaces, mais bon, il y a du monde. Et quand vous êtes pressé, quand vous allez partir au boulot, bah, des fois, on peut pas en mettre, quoi. Donc, c'est souvent qu'on est... Bah, moi, je sais que je suis souvent sous la réserve à cause de ça, hein, en ce moment.
Vous êtes retrouvé coincé, déjà ?
Coincé, ouais, dans une file d'attente de 2 heures pour mettre de l'essence, quoi.
Et en ce moment, vous faites comment ?
Bah là, hier, j'ai sauté sur l'occasion, j'étais à l'intérieur, il n'y avait personne, j'ai fait le plein.
Et pendant ce temps, pendant cette interview, 12 puis 14 camions se sont accumulés à l'entrée de la station-service des semi-remorques. Évidemment, le rond-point d'accès n'est pas prévu pour ça, mais Pascal peut enfin remplir son réservoir.
C'est la merde. Habituellement, là où on prend, on a une station totale du coin, bah, il n'est pas ravitaillé. Donc,
Et vous, vous avez besoin de...
Bah, moi, je fais du régional, donc à la limite, 600 litres tous les 3 jours, quoi, en gros. C'est déjà pas mal, ouais.
Comment vous faites ?
Je peux pas aller partout, donc... Mais bon, je suis dans le coin, donc au pire, je viens ici, quoi. Et là, je suis dans le rouge, hein, donc j'ai pas le choix.
Et voilà qui rajoute aux angoisses du moment, particulièrement pour les professionnels de la route.
Samuel Goldschmidt à Toul, en Meurthe-et-Moselle, pour RTL. Merci Samuel.
Le Front National est né il y a 50 ans aujourd'hui, un anniversaire que le Rassemblement National pourra célébrer en considérant que sa dédiabolisation est réussie à l'Assemblée.
Oui, et elle est criante au regard du contraste que les députés RN proposent par rapport à leurs collègues insoumis. Les provocations, les incidents de séance ne sont pas de leur côté de l'hémicycle, Marie Mollet, et les Français l'ont bien remarqué.
Oui. Oui, un Français sur deux estime que les insoumis sont trop radicaux au Palais Bourbon, contre seulement 1 sur 3 quand il s'agit du RN. Ce chiffre vient d'une grande enquête Ipsos et Marine Le Pen va s'en délecter parce qu'il valide son intuition, celle d'une opposition qui surjoue la respectabilité, costume-cravate et qui vote parfois certains textes du gouvernement. Résultat, un bénéfice d'image immédiat. 4 Français sur 10 pensent que le RN est désormais capable de diriger le pays. C'est plus 5 points en un an. A l'inverse, LFI, roi de la guérilla parlementaire, semble à contre-courant de ce qu'attendent les Français selon cette étude. Mais le député Alexis Corbière assure être victime d'une caricature médiatique. Il est au micro de Marie-Bénédicte Allaire.
Cette étude, je la prends comme une alerte sur ce que nous faisons parce que nous sommes des gens modestes. Mais je vous invite aussi comme profession à vous poser des questions. Comment ça se fait qu'à ce point-là, aujourd'hui, ceux qui portent une opposition écologique, sociale et démocratique sont caricaturés ainsi ? À bon entendeur, salut.
LFI qui a fait du conflit une stratégie, mais qui semble en payer le prix. Seulement 1 Français sur 4 estime qu'il serait prêt à gouverner.
Marie Mollet du service politique de RTL. Le Kremlin promet de récupérer les territoires perdus récemment par les forces russes face à la contre-offensive ukrainienne. Dans le même temps, en France, l'État français annonce qu'il va verser une aide financière de 150 euros par mois aux familles françaises qui hébergent actuellement des réfugiés ukrainiens.
Le sport, à présent, et après le succès de l'Olympique de Marseille hier soir, c'est au Paris Saint-Germain de briller maintenant, face à un club toujours portugais en Ligue des Champions.
Oui, les Marseillais sont imposés 4-1 face au Sporting Portugal hier soir. Ce soir, ce sont les Parisiens qui vont tenter de faire aussi bien sur le terrain du Benfica Lisbonne. Un match forcément particulier pour les Portugais du PSG, Philippe Sanfourche.
Oui, car ils sont en nombre, hein, que ce soit sur le terrain ou en coulisses, depuis l'arrivée du conseiller sportif Luis Campos cet été. Christophe Galtier, l'entraîneur, travaille depuis des années et son époque lilloise dans cette atmosphère lusophone qu'il apprécie particulièrement.
La méthodologie, la façon de faire, cette ouverture d'esprit. On observe beaucoup le championnat portugais et on s'aperçoit que saison après saison, ils sortent toujours des talents. C'est qu'il y a un vrai savoir-faire et ce sont surtout des garçons très professionnels et très respectueux.
À l'image de l'international portugais Danilo Pereira, un de ces joueurs de devoir qui a su se faire sa place dans le vestiaire à l'ombre des Neymar et Mbappé, avec d'autres qualités et une humeur toujours joviale.
Nous, les Portugais, on est au Rio. C'est plus facile de faire l'intégration dans le groupe. On est des gens qui aiment bien travailler. Je pense que c'est ça la caractéristique principale des Portugais.
Dernier exemple en date, le jeune milieu de terrain Vitinha, à peine 22 ans, débarqué cet été dans la capitale, est déjà indispensable dans l'équipe type du PSG.
Philippe Sanfourche. Philippe, on vous retrouve pour vivre la rencontre sur RTL ce soir. Ce sera à partir de 20h45. La météo, comme promis, on vous retrouve Peggy Broche, vous qui nous promettez
un après-midi tout en douceur.
Exactement, Céline. De 17 à 20 degrés près de la Manche. Et ça, ce sont les températures les plus basses. 20 à 25 sur le reste du pays. Globalement, 25 à 29 degrés dans le sud-ouest. Donc, c'est même chaud. Franchement, profitez-en. Côté ciel, parce que demain, ça va rebaisser. Hein, demain. Mais pour l'instant, côté ciel, il fait encore très beau sur la majeure partie du pays, à l'exception du quart nord-ouest, où là, on a l'arrivée d'une perturbation avec beaucoup de nuages. Le temps sera pluvieux cet après-midi entre la Bretagne et la Normandie. Et les pluies vont gagner la région parisienne et la frontière belge en soirée. Puis ça reste gris quand même cet après-midi, encore vers le Languedoc-Roussillon, mais partout ailleurs, un beau soleil.
Merci, Peggy.
Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ça a été mis en ligne ce matin, une vidéo très émouvante sur fond de la chanson Bella Ciao, avec des actrices et des chanteuses françaises qui se sont coupées une mèche de cheveux face caméra en solidarité avec la lutte des, avec la lutte des femmes iraniennes. On est avec Julie Gayet dans une seconde pour en parler.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
On le sait tous que le Moyen-Orient, c'est pas Ukraine. Le Moyen-Orient, c'est pas l'Europe. Le Moyen-Orient, c'est pas blanc. Alors j'ai l'impression que spécialement en Europe, on ne donne pas autant d'attention à ce qui se passe en Iran.
L'actrice iranienne Golshifteh Farahani, que vous entendrez ce soir avec Julien Cellier à 18h15, Golshifteh Farahani qui reproche à la France, au monde occidental en général, de ne pas suffisamment réagir aux manifestations en Iran. Comme une réponse, cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on y voit une cinquantaine d'actrices, de chanteuses françaises, des artistes qui affichent leur soutien aux femmes iraniennes avec en fond cette chanson Bella Ciao. On les voit se coupant quelques mèches de cheveux alors que les manifestations se poursuivent évidemment partout en Iran. Pour en parler avec nous, l'une des artistes présentes sur cette vidéo, Julie Gayet, bonjour.
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 C'est une vidéo de soutien, on l'a dit. Le but, c'est quoi? C'est de donner plus de visibilité aussi à ces femmes iraniennes qui luttent aujourd'hui?
Oui, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas pire que le silence. Et comme le disait Golshifteh, on avait cette sensation de silence et on avait envie qu'elle ne se sente pas seule. Alors c'est à l'initiative d'avocates et d'avocats de Richard Sedillo, qui travaille sur les droits de l'homme, avec Julie Couturier, la bâtonnière de Paris, Christiane Ferrachoulz, l'ancienne présidente du Conseil national des barreaux. Elles sont venues nous voir, elles ont cette habitude de dire il faut absolument ne pas les laisser dans ce silence et les accompagner dans ce combat qu'on trouve légitime, c'est-à-dire pour conquérir leur liberté. Leur liberté, pourquoi pas d'ailleurs de porter un voile, c'est pas la question. La question, c'est que Mahsa Amini, là aujourd'hui, qui est une jeune femme de 22 ans, a été arrêtée et maltraitée parce qu'elle avait quelques mèches de cheveux qui laissaient paraître de son voile. Et là,
et on rappelle que c'est sa mort qui a déclenché le mouvement de protestation qui traverse aujourd'hui l'Iran.
Exactement. Et la liberté, je pense que ce peuple n'espère qu'un accès à des libertés plus essentielles.
On l'a dit dans cette vidéo, vous êtes plusieurs à vous couper une mèche de cheveux. C'est un geste qui a beaucoup été repris par les manifestantes aussi en Iran.
C'est parti d'elle, effectivement, puisque c'est ces quelques mèches de cheveux qui lui ont donné la mort. Donc on a voulu leur envoyer un message simple. Je pense que ça se passait de mots même si on a repris un peu l'histoire, rappeler à chacun que c'est pour quelques mèches de cheveux qu'elle est morte. Et cette chanson de Bella Ciao, chantée par une Iranienne, qui accompagne. Mais ce qui était fou, c'est la façon dont toutes les actrices ont répondu très vite. Isabelle Carré, la première, puis très vite Juliette Binoche, et puis Isabelle Adjani, et puis Charlotte Gainsbourg. Et ça a été, toutes, Angèle, ont accepté de Marion Cotillard, de se couper une mèche de cheveux en solidarité.
C'est ça précisément que je voulais vous dire, parce que cette vidéo, d'abord, elle est très émouvante, elle est très réussie, et elle frappe par les stars qui sont dans cette vidéo. Vous l'avez dit, c'est Isabelle Adjani, c'est Isabelle Huppert, c'est Charlotte Gainsbourg, c'est Marion Cotillard. Toutes, j'ai envie de dire, le cinéma français est présent, toutes les stars sont présentes, sauf, si vous me permettez, deux actrices majeures, que sont Catherine Deneuve et Sophie Marceau. Et je me suis demandé pourquoi elles n'étaient pas avec vous.
Ah bah alors là, c'est vraiment parce que on a fait ça très vite, avec ce silence qu'on trouvait pesant. Je pense que tout, on sentait ça. Et d'ailleurs, parallèlement, il y a une pétition qui a été lancée. Certaines actrices, j'ai vu que Virginie Efira l'avait signée. Donc voilà, ça s'est fait, ça se fait comme ça, malheureusement. Pourquoi ? Je suis sûre que voilà, si on devait continuer, et on avait pris plus de jours, elle serait peut-être présente. Mais ce qui est bien, c'est que c'est toute génération confondue, de Charlotte Rampling à Angèle, la chanteuse Angèle. Donc
Alors il y aura des critiques, et il y en a toujours dans ces cas-là, sur le milieu du cinéma quand il s'engage, sur le thème Boboland part en croisade et au fond ça ne servira à rien, où on s'achète une bonne conscience à peu de frais. Vous allez très certainement entendre ça. Et est-ce que ça sert à quelque chose ? Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qui seront émises ?
Bah, encore une fois, quand il y a le silence, on nous dit qu'on ne se mobilise pas, et quand on se mobilise, il y aurait des critiques. Là, je crois qu'il suffit de voir la vidéo pour comprendre. Là, je n'ai pas de réponse. Regardez juste la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo est reprise partout.
Elle est très belle. Elle est très belle, elle est très émouvante, et elle tire les larmes, disons-le.
Bon, bah, écoutez, tant mieux. En tout cas, c'est ce geste totalement... solidaire, de sororité de nous toutes. Et puis après, évidemment, il y a aussi... certaines femmes importantes comme Anne-Cécile Melfer de la Fondation des Femmes ou Laurence Bachmann, présidente pour les femmes dans les médias, ou Michèle Dayan, qui est une avocate de Lawyers for Women, des avocates qui se battent pour aider ces femmes, parce que là il va falloir les aider, voilà, pour qu'elles elles échappent peut-être au pire sort.
Et cette vidéo, on le comprend, n'est qu'un un premier pas dans une mobilisation que vous espérez plus importante. Merci beaucoup, Julie Gaillet, d'avoir accepté de répondre pendant quelques minutes à nos questions dans RTL Midi. Merci.
J'invite vraiment tout le monde à voir cette vidéo. Je pense que tout le monde ne l'a pas encore vue parce qu'elle a été postée en ligne ce matin sur les réseaux sociaux. Mais vraiment, elle est très, très émouvante. Laissez-vous tenter. Dans une seconde, on continue de parler de cinéma avec Stéphane Boutsock. C'est mercredi. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 55. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc c'est cinéma avec vous, Stéphane Boutsock. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Stéphane. On commence donc avec le film très attendu de la semaine. C'est Novembre de Cédric Jiménez.
Film qui a pas mal démarré d'ailleurs ce matin sur Paris. Les premiers chiffres, on les a à 9h à Paris. On verra ce soir tard ce que ça a donné sur l'ensemble de la France. Mais c'est plutôt encourageant. Thriller d'espionnage, Jiménez, c'est le monsieur qui nous a fait Bac Nord il y a quelques mois seulement. Cette fois-ci, il s'intéresse à la traque des autres. Auteur des attentats du 13 novembre 2015. Je précise, c'est toujours bien de le rappeler, qu'on ne voit aucune scène de ces attentats dans ce film. C'est pas du tout l'histoire. L'histoire, ce sont vraiment ces 5 jours qui ont compté. Et toutes les pistes qui ont été suivies, les plus farfelues, les plus douteuses, les plus sérieuses, et comment on a réussi à identifier et arrêter une bonne partie de ces terroristes. Jean Dujardin à l'affiche, Sandrine Kiberlin, Anaïs Desmoustiers, Lina Koudry, Jérémy Régnier. Très, très beau casting au service d'un vrai thriller, comme le cinéma français sait le faire.
Et tout ça est crédible, si j'ose dire. C'est journalistique, quasiment.
Appuyé par les policiers et les services secrets qui ont participé à cette traque.
Autre sortie, Stéphane, et on l'attend avec impatience. C'est pour Tori vous. Et Lokita, des frères Dardenne.
Luc et Jean-Pierre Dardenne. On est exactement dans la veine de leur cinéma, sauf que justement, et c'est ce qui est intéressant, ils y ajoutent cette fois une touche de polar et thriller. C'est l'histoire de deux gamins, des migrants, des jeunes sans papier, Tori et Lokita, un petit garçon et une jeune fille, qui se font passer pour frères et sœurs. Ils ne le sont pas, ils vont nouer des liens d'amitié, de famille, et malheureusement pour eux, je dis bien malheureusement, ils vont croiser la route d'un trafiquant de cannabis qui va utiliser leur service et leur candeur. Je vous dis ça parce que les Dardenne, je les ai aussi rencontrés en partie pour vous. Pascal, je leur ai dit, moi je travaille avec un camarade qui s'appelle Pascal Pro, tous les ans quand il y a Cannes, il me dit, est-ce que les Dardenne seront là cette année ? C'est vrai qu'ils viennent à chacun de leurs films, donc tous les 2-3 ans, vous savez que ce sont les cinéastes les plus primés de l'histoire du Festival de Cannes, 8 prix dont 2 palmes d'or quand même, et je leur ai dit, voilà, mon camarade va me dire encore les Dardenne, et ben moi je leur ai demandé, tous ces prix-là, ils sont où et est-ce que ça compte ?
Il y a de grands films, des films magnifiques, des réalisatrices et des réalisateurs formidables qui n'ont pas eu les prix que nos films ont eu. Nous, on vient chaque fois avec nos films. Il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait, qui ne le font pas. En fait, en gros, j'en sais rien. Ça dépend des jours. Quand je suis optimiste, je me dis c'est formidable, c'est bien. Quand je suis pessimiste, je me dis qu'est-ce qu'on retiendra de tout ça.
Et a pas besoin d'avoir une palme d'or dans le dos ou au-dessus de la tête, sur la cheminée, pour travailler. Il faut essayer de s'isoler, de s'abstraire de tout ça et de recommencer comme si on recommençait à zéro. Et nous, ça nous angoisse très fort de repartir, de recommencer. Et on repart vraiment comme si on faisait le premier film. Et avoir toutes ces choses autour de soi, c'est pas bien pour nous, c'est pas bien.
Eh ben en fait, ils ont mis tous ces trophées dans une armoire qu'ils ouvrent très très peu, bon, en fait.
Est-ce que vous conseillez aux gens d'aller voir Tori et Lokita ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est suffisamment grand public ? Ou est-ce que c'est très pointu ?
Non, mais les Dardenne, c'est jamais très 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 pointu. C'est juste un cinéma social qui n'est pas destiné à faire 7 millions d'entrées, si vous voulez, c'est clair.
Mais les gens vont aimer s'ils y vont cet après-midi.
C'est une très belle facture, absolument.
Pour compléter votre podium, Stéphane, Un beau jour de Mia Hansen-Love avec Léa Seydoux.
Léa Seydoux, Pascal Grégory, Nicole Garcia, Melville Poupeau, très beau casting. C'est l'histoire d'une jeune femme jouée par Léa Seydoux qui doit s'occuper de son papa, c'est Pascal Grégory, qui est atteint d'une maladie dégénérative. Et en même temps, cette jeune femme, elle va retrouver un amour de jeunesse. Donc si vous voulez, pendant qu'il y a la mort qui rôde, qui la rattrape, eh ben, elle court, elle, vers la vie. Et ça donne un film qui est absolument pas plombant, extrêmement solaire, porté, c'est vrai, par Léa Seydoux. Je regardais quand même son parcours à Léa Seydoux. Beaucoup de films d'auteurs, d'accord, mais aussi quand même deux James Bond, un Mission Impossible. Elle sera très très prochainement dans la suite de Dune, donc d'énormes superproductions, d'énormes films populaires américains. Donc je lui ai demandé justement comment elle regardait un peu ce parcours et ces petits sauts de puce qu'elle fait entre différents genres de cinéma.
J'essaye d'incarner les rôles quand je les joue. C'est-à-dire que je me raconte à travers les films, je dis aussi quelque chose de moi, quelque chose d'intime. Une des plus grandes actrices, c'est la Joconde. En tant que spectateur, on peut projeter sur elle un peu tous nos désirs et nos fantasmes. Et je trouve que c'est un peu ce que j'essaye de faire à l'écran. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être comme une page blanche et je cherche à ce que le metteur en scène puisse projeter ses désirs sur la page blanche que je, que je suis. C'est vrai que c'est passionnant de travailler avec tous ces metteurs en scène différents, dans des langues différentes. Ça me plaît, c'est toujours un pari.
Léa Seydoux, donc, à l'affiche, notamment aujourd'hui, du film Un beau jour.
Merci beaucoup. Écoutez, Stéphane, allez au cinéma.
Exactement, allez au cinéma. Il n'y a pas de portable qui sonne, vous n'êtes pas dérangé. Vous voyez un film pendant deux heures dans le noir avec d'autres personnes. Ça s'appelle le cinéma. Dans quelques instants, c'est vous qui prenez la parole au 30 de 10.
RTL Midi.